Le 8 mars 2014, quelque part au-dessus de la mer de Chine, le MH370 de la Malaysia Airlines, avec 239 personnes à bord, disparaît des écrans radars. Ce jour-là commence le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation mondiale. 5 ans plus tard, malgré la mobilisation de centaines d'experts du monde entier, l'avion n'a pas été retrouvé. Et cette incroyable énigme n'est à ce jour toujours pas résolue. La Malaysia Airlines a remis son rapport officiel d'enquête en juillet 2018. Ce rapport, très controversé, conclut à un détournement du MH370, alors même qu'il n'y a pas eu à ce jour la moindre revendication. Pourtant, 5 ans après la disparition de l'avion, de nouvelles hypothèses apparaissent. Y aurait-il eu des marchandises dangereuses dans les soutes de l'avion? Des passagers suspects à l'embarquement? Une bavure militaire en mer de Chine pourrait-elle être à l'origine de la disparition de l'avion? Et que penser de ce drôle d'aventurier qui trouve miraculeusement des débris du MH370 dès qu'une équipe de télévision est avec lui? Dans ce drame, tout pose question. Jusqu'à cette partie de l'aile du Boeing 777, un flaperon retrouvé il y a 3 ans sur l'île de la Réunion, mais dont certains experts remettent en cause l'identification. Pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, nous avons mené une contre-enquête. Nous avons rencontré Guylain Vatrolos, qui a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans ce drame. Son avocate, maître Marie Dauzé. Jean-Paul Troadec, ancien responsable du bureau d'enquête de l'aviation civile française, qui a travaillé sur des dizaines de crashs aériens. Florence de Changy, journaliste, qui a beaucoup enquêté sur la disparition du MH370. Fabrice Pelosi, conseiller en gestion de crise, et enfin les spécialistes du groupe Captio qui ont émis une nouvelle hypothèse sur le lieu de disparition de l'avion. 5 ans après la disparition du MH370, l'absence de réponse accentue chaque jour un peu plus l'immense chagrin des familles. Résultat, elles ont perdu toute confiance et remettent en question l'ensemble de l'enquête. Cette incroyable énigme ne cacherait-elle pas le plus grand mensonge de l'histoire de l'aviation mondiale?
C'est beaucoup plus grave que ça. L'avion, on sait où il est.
Commençons notre enquête en reprenant la chronologie validée par le rapport officiel. Le 8 mars 2014, à minuit 42, le MH370 décolle de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, pour Pékin. Le vol doit durer 6h30. Avec 49 tonnes de kérosène, l'appareil a une autonomie de 7h30, soit une heure de plus que le temps de vol prévu. À l'embarquement, on compte 12 membres d'équipage et 227 passagers de 14 nationalités différentes. 4 Français sont à bord. Le début du vol se déroule sans problème. Le MH370 atteint normalement son altitude de croisière à 10 000 mètres. À 1h07, soit 26 minutes après le décollage, l'appareil passe au-dessus du point de navigation Igari, un des points de passage prévus par son plan de vol. 12 minutes plus tard, toujours rien à signaler. L'appareil quitte l'espace aérien de la Malaisie et s'apprête à passer sous le contrôle d'Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Selon la procédure habituelle, un échange radio met fin à la communication avec la Malaisie. C'est le dernier message audible envoyé par le MH370. L'avion ne prendra jamais contact avec les contrôleurs vietnamiens. Autre fait étonnant, 1 minute après le dernier message, tous les moyens d'identification et de communication de l'avion s'interrompent. Le MH370 devient alors un avion fantôme. Dans un premier temps, le contrôleur vietnamien ne s'inquiète pas du silence de l'avion. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes qu'il prévient ses collègues malaisiens. À 6h30, heure prévue de l'atterrissage de l'avion à Pékin, le MH370 n'est toujours pas annoncé à l'aéroport. Malgré le manque d'informations, les familles comprennent que quelque chose d'anormal s'est passé. Ce n'est qu'une heure plus tard que les autorités malaisiennes annoncent officiellement la disparition de l'avion.
Malaysia Airlines confirme that this flight MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control at 2:40 a.m.
Pour les familles des passagers, c'est le choc.
Un à un, les proches des passagers du vol MH370 affluent vers les zones aménagées pour eux dans l'aéroport de Pékin. Une attente insupportable.
Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer ?
Après cette première annonce dramatique, commence pour les familles des victimes un véritable cauchemar. Les informations et les contre-informations s'enchaînent. Les recherches en mer de Chine ne donnent rien. Les communicants de la Malaysia Airlines cumulent les erreurs. Jusqu'à cette information incroyable. Après l'interruption de son système de communication, le MH370 aurait été repéré par des radars militaires alors qu'il faisait un demi-tour. Suite à ce demi-tour, l'avion serait repassé au-dessus de la Malaisie, puis se serait engouffré dans le détroit de Malacca. C'est là que se seraient arrêtées les traces des radars militaires malaisiens. Ce sont alors les satellites d'une société anglaise, Inmarsat, qui auraient tracé la suite de la trajectoire du MH370. L'avion aurait poursuivi son vol pour aller se perdre dans l'océan Indien, au milieu de nulle part. À la suite de ces nouvelles informations, les recherches sont abandonnées en mer de Chine pour se concentrer sur l'océan Indien. Mais la zone de recherche est immense. Malgré des moyens considérables mis en œuvre, les investigations resteront vaines. Aujourd'hui, 5 ans après le début de ces recherches et après avoir dépensé quelques 130 millions d'euros, aucune trace du MH370 n'a été retrouvée au fond de l'océan Indien. Mais que s'est-il passé le 8 mars 2014 vers 1h20 du matin, à 10 000 mètres d'altitude? Pour les experts en aéronautique, il n'y a que 3 hypothèses. La première, un incendie à bord. Plusieurs avions ont déjà été victimes d'une telle catastrophe. Mais selon les spécialistes, si un feu se déclare dans l'appareil, il ne peut pas voler plus de quelques dizaines de minutes. Dans le cas du MH370, l'hypothèse n'est pas valide, puisque d'après les données de la société Inmarsat, l'avion a été sous contrôle, c'est-à-dire piloté, encore pendant 7 heures après la coupure des communications. Seconde possibilité, un détournement. C'est l'hypothèse retenue par l'enquête officielle. La trajectoire de l'appareil s'expliquerait alors par le fait que celui-ci ait été sous contrôle pour effectuer son demi-tour et s'engager ensuite dans le détroit de Malacca. Malgré l'absence de revendication, l'enquête conclut au détournement. Du coup, l'hypothèse pose question. Comment accréditer l'idée du détournement du MH370 alors que personne n'en a jamais réclamé la paternité ? Troisième et dernière possibilité, le suicide du commandant de bord ou de son copilote. Les enquêteurs ont fouillé chaque détail de leur vie privée. Alors, que s'est-il réellement passé ? Et si aucune de ces pistes n'était la bonne ? Et si toute cette histoire n'avait pour but que de camoufler une série d'erreurs ? Et si le mystère le plus incroyable de l'histoire de l'aéronautique n'était en fait qu'un immense mensonge ? Pour tenter de comprendre l'incompréhensible, il nous fallait mener une véritable contre-enquête.
Bon, globalement, dans cet avion, tout ce qu'on tire est bizarre. Toute ficelle qu'on tire, on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre.
We are looking at every angle. We are looking at every aspect.
D'abord, les passagers. Rappelons que les 12 membres d'équipage ont accueilli 227 passagers de 14 nationalités différentes, dont une majorité de Chinois. 4 Français sont également à bord. Les enquêteurs vont donc devoir étudier le profil de 239 personnes. Florence de Changy est journaliste au Monde, envoyée permanente en Asie. Elle a suivi l'histoire du MH370 depuis le début. Elle s'est livrée à une contre-enquête approfondie. Très vite, Florence de Changy s'est également intéressée aux passagers.
Il y a quand même, parmi les profils, quelques passagers dont on peut se demander ce qu'ils faisaient là.
The investigation team is now, as we speak, is going through all the records, going through all the video footage.
Un commando aurait-il pu détourner l'avion ? Pour le savoir, la liste des passagers avec leur numéro de passeport est remise à Interpol.
Les passagers, on a commencé par nous dire tout de suite Il y a deux Iraniens qui ont des faux passeports.
Dans le contexte international de l'époque, deux Iraniens voyageant avec de faux passeports à bord d'un avion qui a disparu, ça ne pouvait évidemment pas passer inaperçu. D'autant plus que trois jours après la disparition de l'avion, les Malaisiens présentent en conférence de presse des photos un peu étonnantes des deux Iraniens.
Le problème, c'est que quand la Malaisie distribue les photos, ils font un espèce de montage complètement raté de photocopies, ce qui fait qu'en fait, les deux hommes se retrouvent avec le même pantalon. Et là, c'est très facile de dire qu'est-ce que c'est que ce montage, et ça éveille des soupçons.
La Malaysia Airlines est sous pression. Et pour Fabrice Pelosi, spécialiste en gestion de crise, dès le début, la situation a été mal gérée.
Il y a plein d'informations qui vont être diffusées, qui sont soit non vérifiées, soit des rumeurs, et surtout, qui vont donner lieu à des interprétations. Ça, c'est tout ce qu'on veut éviter en situation de communication de crise. On veut uniquement des informations vérifiées et des faits.
Malgré ces éléments troublants, Interpol va dès le lendemain tirer les choses au clair.
J'ai trouvé surtout que les 24 heures étaient un temps extrêmement court pour nous dire qu'il n'y a pas de problème avec les Iraniens.
Selon l'enquête d'Interpol, les deux Iraniens ne seraient que de simples citoyens qui voulaient s'installer en Europe. Pour brouiller les pistes, ils auraient choisi un vol Kuala Lumpur-Pékin et de là, ils devaient prendre un autre avion pour l'Allemagne. L'avocate de Gila Vatrolo s'intéresse particulièrement à cette question.
On sait que c'était un canal d'immigration clandestine, c'est vrai, et qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir essayé de rejoindre d'autres pays via la Chine.
Enfin, je trouve ça quand même assez bizarre de passer par Pékin pour aller en Allemagne.
Passer par un pays aussi surveillé que la Chine, quand on veut passer inaperçu avec un faux passeport, c'est effectivement une idée surprenante. D'autre part, si les Iraniens ont passé les contrôles avec de faux passeports, ça pose question sur les conditions de sécurité de l'aéroport. Par ailleurs, en ce qui concerne les passagers, un homme en particulier pose également question.
Alors, il y a effectivement aussi un passager qui est un spécialiste d'aéronautique.
On nous avait dit au départ, personne ne connaît le monde de l'aviation dans cet avion.
Et pourtant, l'occupant du siège 29A, Mohamed Kairoul, est ingénieur de vol. Il travaille pour des sociétés privées spécialisées dans les jets d'affaires. Et le siège qu'occupe Mohamed Kairoul est situé juste sous le système de communication par satellite de l'avion.
Les Français se sont inquiétés de cette coïncidence, semble-t-il, entre le fait qu'il soit le seul ingénieur qualifié et qu'il soit à cet endroit de l'avion.
Or, sa connaissance des différents systèmes électroniques dans un avion aurait pu lui donner les clés nécessaires pour en prendre le contrôle.
Je suis persuadé qu'en tout cas, en ce qui concerne contrôler un avion à distance, en 2014, c'était possible et que les Américains avaient la technologie. En ce sens que moi, j'ai retrouvé les brevets, qui sont des brevets Honeywell Boeing, qui disent qu'on peut prendre possession d'un avion à distance.
Quoi qu'il en soit, en 2015, c'était possible sans aucun brevet de Boeing. Car Chris Roberts, un hacker américain, s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir piraté en plein vol l'appareil dans lequel il se trouvait. Il aurait fait cela en se connectant au réseau informatique de l'appareil via l'écran situé devant les passagers. Le hacker aurait réussi à modifier la puissance des moteurs, et ce malgré le pilotage automatique de l'appareil. Le FBI, qui a vu passer le message de Chris Roberts sur les réseaux sociaux, l'a rapidement arrêté à sa descente de l'avion. Un interrogatoire a eu lieu, mais il n'a pas été poursuivi.